Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français et diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le transport en commun rapide devient une nouvelle culture de transport en Indonésie. L'ambassadeur du Japon a qualifié le MRT de symbole de l'amitié nippo-indonésienne. Le ministre indonésien des Affaires étrangères apprécie le premier ministre de la Nouvelle-Zélande. La Suède offre la reconstruction de la ville de Palu. Le comité électoral étranger au PPLN Pékin insère un message spécial sur l'enveloppe du bulletin de vote. Le ministère de l'Industrie encourage les diplômés de pensionnats islamiques à devenir de nouveaux entrepreneurs. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré la première phase du système de transport en commun rapide, ou MRT, au rond-point de l'Hôtel d'Indonésie à Jakarta. Cette inauguration a marqué un nouveau chapitre du développement de la culture communautaire des transports en Indonésie, notamment à Jakarta. Le président a également déclaré que l'inauguration de la première phase serait bientôt suivie par la seconde phase de la construction afin que la ligne de MRT puisse être intégrée.
Budaya baru yang ingin terus kita kenalkan, kita sosialisasikan. Ini adalah peradaban baru.
C'est une nouvelle culture que nous voulons continuer à introduire et à socialiser. C'est une nouvelle civilisation. Nous devons être optimistes de pouvoir changer la société d'une ancienne culture à une nouvelle culture. La première consiste à faire l'acquis si vous voulez monter à bord du MRT. Deuxièmement, ne pas jeter les déchets à la station de MRT ou à l'intérieur de celui-ci. Le dernier est la discipline à l'heure. Si ceux-ci ne sont pas acculturés, il est inutile d'avoir un MRT. Nous devons prendre soin le MRT que nous avons. Et ensuite, nous poursuivrons la phase vers le nord ou la deuxième phase, puis parallèlement avec l'est à l'ouest. Le président Jokowi a ajouté que l'intégration des modes de transport terrestre dans la ville de Jakarta devrait se concrétiser dans les 10 prochaines années. Selon lui, le gouvernement a préparé le budget nécessaire, notamment pour l'aménagement du territoire, la colonisation et le drainage à Jakarta. Un certain nombre de ministres, notamment le ministre de coordination chargé de la politique, du droit et de la sécurité, M. Wiranto, le ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, et le gouverneur de Jakarta, M. Anies Baswedan, ont assisté à l'inauguration de la première phase de MRT. L'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masafumi Ishi, a déclaré que l'inauguration de MRT à Jakarta dimanche était une forme d'amitié entre le Japon et l'Indonésie. Ce n'était que le début, il y a encore plus de choses à faire dans le futur. Jusqu'à présent, le Japon est le principal partenaire de l'Indonésie dans la coopération de commerce et d'investissement, y compris le projet de MRT. Il pense que le transport à Jakarta sera plus avancé que le Japon à l'avenir. Pour le grand public, le MRT peut être utilisé le 25 mars de 5h30 jusqu'à 22h30 heure ouest de l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a apprécié la qualité du leadership de la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. La ministre Retno a estimé que Ardern était soutenue par un sentiment d'empathie, de protection et de grande solidarité, ainsi la plaçant comme un agent de la paix. À la réunion de l'Assemblée mondiale des femmes à Tokyo, le Japon, récemment, la ministre a déclaré que Jacinda Ardern a montré sa qualité de bon dirigeant face aux attaques terroristes en Nouvelle-Zélande récemment. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères citée par Republika Online dimanche. Selon la ministre, le leadership de la première ministre néo-zélandaise montre que les femmes ont la capacité de jouer un rôle et de contribuer à la paix. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement de la ville de Boras, la Suède, est intéressé à coopérer à la reconstruction de la ville de Palu après le séisme et le tsunami. Cela a été déclaré par l'ambassadeur d'Indonésie en Suède, M. Bagas Hapsoro, qui a rencontré le maire et l'adjoint au maire de Palu samedi récemment. Lors de sa visite en Indonésie, l'ambassadeur Bagas Hapsoro s'est rendu dans la ville de Palu et a rencontré le maire de Palu, M. Hidayat, et le maire adjoint de Palu, Sigit Purnomo. L'ambassadeur Bagas a une mission de présenter le plan de coopération initié par le gouvernement de la ville de Boras en Suède pour reconstruire la ville de Palu dans le centre de Sulawesi après le séisme et le tsunami qui ont frappé la ville en septembre 2018. Ce plan de coopération est financé par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, ou SIDA. La première phase de l'assistance s'élève à 3,5 millions de couronnes suédoises. Le Comité électoral étranger, ou PPLN Pékin, a inséré un message spécial dans chaque enveloppe du bulletin de vote envoyé aux citoyens indonésiens en Chine. Le président du Comité électoral étranger à Pékin, Owi Edi Susanto, a déclaré dimanche que tous les bulletins de vote envoyés par la poste sont insérés. La procédure pour l'élection de la méthode postale, y compris les interdictions et les procédures de vote. Antara a rapporté que dans chaque enveloppe, il y avait des bulletins de vote pour les candidats à la présidence, les candidats à la Chambre de représentants de la République d'Indonésie, les formulaires C6 et une feuille de papier avec l'écriture « La procédure de l'élection avec la méthode postale ». Une feuille de papier portant le logo PPLN de Beijing et l'ambassade d'Indonésie, ambassade de Beijing, contient trois éléments importants. L'interdiction de photographier ou de documenter les bulletins de vote, la procédure de vote et les procédures de renvoi les bulletins de vote au PPLN. Le vote est tenu le 14 avril au bureau de vote de l'ambassade d'Indonésie à Beijing. Il y a trois choses importantes contenues dans une feuille de papier portant le logo PPLN à Pékin et l'ambassade d'Indonésie à Pékin, telles que l'interdiction de photographier ou de documenter les bulletins de vote, procédure de vote et procédure de renvoi de bulletins de vote à PPLN. Le vote au bureau de vote de l'ambassade d'Indonésie à Pékin se tiendra le 14 avril. Le ministère de l'Industrie par du programme Centrepreneur continue d'encourager le développement de nouveaux entrepreneurs dans les pensionnats islamiques tout en réalisant la feuille de route Making Indonesia 4.0 pour l'autonomisation des petites et moyennes entreprises. avec le programme Santé Preneur. Les centres aujourd'hui doivent non seulement étudier la religion, mais aussi devenir entrepreneurs. C'est ce qu'a affirmé le ministre Erlangga lors de sa visite au pensionnat islamique Darul Ihsan Muhammadiyah de Sragen, dans le centre de Jaffa. Il a expliqué que le gouvernement avait fait de réels efforts pour encourager l'esprit d'entreprise du centre, entre autres par la facilitation des outils de production, comme par exemple au pensionnat islamique Darul Ihsan Muhammadiyah à Sragen. Il a envoyé directement des machines et du matériel de fabrication du pain et des centres utilisés pour être productifs et entrepreneurs. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La campagne ouverte donne la priorité au pacte d'intégrité électorale ». La campagne ouverte des élections générales 2019, qui est également appelée la campagne des assemblées générales, a débuté le 24 septembre jusqu'au 13 avril. Pour le candidat à la présidentielle numéro 1, Joko Widodo Ma'ruf Amin, et le candidat à la présidentielle numéro 2, Prabowo Subianto et Sandiaga Uno, ce sera une étape cruciale, parce que les campagnes de réunion publique ou la campagne des assemblées générales implique un grand nombre de mobilisations de masse, de sorte qu'elles sont sujettes aux collisions. Pour éviter la rencontre des masses des deux candidats, la Commission électorale générale d'Indonésie, ou KPU, a établi un calendrier des réunions publiques de la campagne sur la base du zonage régional. Les campagnes ouvertes peuvent être comparées à une guerre de dispute les votes. Tous les candidats ont fait de leur mieux pour obtenir le soutien d'électeurs indécis. La lutte pour le soutien était la préoccupation de l'équipe de réussite. Ils seront amenés à choisir ce qu'ils veulent. Les équipes de réussite, les partis de soutien et les volontaires sont certainement légitimes dans leurs efforts pour se battre pour obtenir le soutien des électeurs indécis, mais il faut respecter l'éthique et se conformer à la réglementation en vigueur afin qu'il n'y ait pas de conflit. De plus, la situation concurrentielle au cours de la campagne électorale depuis septembre l'année dernière a fait une polarisation soufflée dans la société. Tous les candidats doivent revenir à la philosophie de la campagne dans le cadre de l'éducation politique de la communauté et être fait de manière responsable. Quelles que soient les violations au cours de la campagne ouverte doivent être sanctionnées. La loi électorale doit être appliquée. Ne laissez pas la campagne ouverte face aux pratiques de politique monétaire, intimidation et violence. La principale essence de la campagne est de donner une compréhension aux électeurs potentiels afin qu'ils puissent déterminer des choix de manière rationnelle. Ce n'est pas une campagne qui utilise uniquement le côté émotionnel d'électeurs qui craignent de créer le fanatisme potentiellement conflictuel. Pour cette raison, les participants aux élections doivent être consistants pour appliquer le pacte d'intégrité qu'ils ont signé. Pour réaliser les élections pacifiques, sans canular, sans politisation de ethnie, religion, race et relations intergroupes, et sans politique monétaire. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 25 mars. Le 25 mars 1957, l'établissement de la Communauté économique européenne, CEE. La Communauté économique européenne est une organisation régionale qui vise à unir les économies de ses pays membres. Son objectif initial est d'introduire l'intégration économique, y compris des marchés communs et des syndicats de produits soumis à Axis. parmi les 6 pays fondateurs. La France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont signé l'accord de Rome à Rome en Italie le 25 mars 1957 en vue de créer une organisation dénommée Communauté économique européenne. Après la création de l'Union européenne en 1993, la CEE a été créée et rebaptisée Communauté européenne. En 2009, toutes les institutions de la Communauté européenne ont été fusionnées en une seule avec l'Union européenne. Le 25 mars 1971, l'opération Searchlight a commencé la guerre d'indépendance du Bangladesh. Le 25 mars 1971, Islamabad a lancé une opération militaire appelée Opération Searchlight en vue d'éliminer les rebelles politiques, sociaux ou armés dans la région du Pakistan Est. Quelques mois plus tard, l'opération militaire a déclenché un génocide systématique qui a coûté la vie à 3 millions de personnes. Environ 10 millions de Pakistanais de l'Est ont été forcés de décider de fuir en Inde à cause de l'opération militaire. Le 25 mars 1975, le roi Faisal a été tué. Le roi d'Arabie Saoudite, Faisal bin Abdulaziz Al Saud, a été abattu le 25 mars 1975 par son neveu Faisal bin Mus'ad. Mus'ad s'est déguisé en une délégation koweïtienne désireuse de rencontrer le roi Faisal subitement. De la blessure par balle, le roi Faisal saignait de son dernier souffle. D'après les résultats de l'enquête et de l'interrogatoire, Faisal bin Mus'ad a affirmé que le meurtre était basé sur sa propre initiative. Outre les théories du complot qui circulaient dans la communauté, les policiers soupçonnaient que Faisal avait subi des dommages mentaux. Finalement, peu de temps après, il a été condamné à Kishos, soit tué devant le public. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Apa merindunya dirimu, karena
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Kangen, chantée par Dewa Dinov. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie, intitulée « L'Indonésie encourage les exportations industrielles stratégiques vers l'Asie du Sud ». Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie encourage les exportations industrielles stratégiques vers l'Asie du Sud ». L'Indonésie continue d'encourager les exportations industrielles stratégiques vers l'Asie du Sud, en particulier l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, qui est le plus grand contributeur à l'excédent commercial de l'Indonésie. Les produits industriels stratégiques exportés avec succès par l'Indonésie sont 15 wagons de train fabriqués par Inka Société Anonyme pour la première phase de l'expédition d'un total de 150 wagons commandés et de 14 unités d'autobus au Bangladesh. Le directeur de l'Asie du Sud et central du ministère indonésien des Affaires étrangères, Ferdi Piai, à la libération des exportations de bus vers le Bangladesh en marge du salon Bus World Southeast Asia Aji Expo Kemayoran Jakarta, a déclaré jeudi que l'Indonésie souhaitait exporter non seulement des produits à base d'huile de palme qui a des effets multijoueurs, mais des produits industriels stratégiques qui absorbent des travailleurs et ont une valeur ajoutée. Ferdi Piai a déclaré que la livraison de 4 unités de bus exécutifs et de 10 unités à double étage au Bangladesh était un nouveau succès des efforts déployés par l'Indonésie pour tirer parti des opportunités du marché non traditionnel afin d'encourager une augmentation des exportations nationales. L'exportation d'autobus représentant une valeur de 808 000 dollars, soit environ 11,41 milliards rupiah, témoigne également de l'engagement pris par les gouvernements indonésiens et bangladais d'améliorer la coopération économique. Ferdi expliquait qu'actuellement, le ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de ses représentants dans divers pays, s'emploie actuellement à introduire et à proposer des produits ou services produits par des entreprises d'État. À Sri Lanka, par exemple, l'Indonésie étudie l'exportation de wagons de chemin de fer. L'Indonésie étudie à exporter 90 wagons de train vers Sri Lanka. À Bangladesh, l'Indonésie étudie actuellement une possibilité de coopération dans le domaine des projets de construction et de la connectivité maritime. Pendant ce temps, l'ambassadeur du Bangladesh en Indonésie, Azmal Kabir, a déclaré que l'Indonésie possède une bonne industrie stratégique et qu'elle mérite l'exportation, notamment le wagon de chemin de fer d'Inka Société Anonyme. À l'avenir, il espère que les hommes d'affaires indonésiens et bangladais pourront explorer davantage les opportunités commerciales pour être coopérés. La balance commerciale entre l'Indonésie et le Bangladesh l'année dernière a montré un excédent d'1,79 milliards de dollars américains pour l'Indonésie. L'Indonésie a également enregistré un excédent dans ses relations commerciales avec l'Inde qui s'élevait à 8,7 milliards de dollars américains et avec le Pakistan à 1,8 milliard de dollars américains. À l'heure actuelle, l'Indonésie encourage également la discussion des accords commerciaux préférentiels avec le Bangladesh. Cette discussion devrait être achevée en 2020. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia. di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu. Kita terkadang ku ragu karena tak percaya, tapi ku yakin kau milik. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Voice of Indonesia.
Cerita setelah Dezim Sangsong ang titule berawal dari tatap Shang Tepak Yura Yunita. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, cerita, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs, voici le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons la plage Watu Tena à Nusa Tenggara Est. Chers auditeurs, la plage de Watu Tena est située au sud-est de l'île Adonara, plus précisément dans le village de Nelerereng, dans le district d'Ileboleng, à Adonara de l'Est, à l'est de Flores. Beaucoup de touristes ne se sont pas encore rendus à la plage, donc cet endroit est parfait pour se détendre et profiter du magnifique paysage. En plus du sable blanc et de la mer bleue, l'attrait de cette plage est des pierres noires ou des pierres magma avec différentes formes et formations qui décorent le littoral, ajoutent la beauté de la plage de Watu Tena et font la différence avec les autres plages sur le continent de Flores. Le nom de Wato Tena signifie bateau de pierre ou pierre qui a la forme du bateau. On peut voir de la pierre magma qui a la forme d'un bateau. Il y a beaucoup de pierres de magma qui apparaissent sur la surface de sable blanc. L'exotisme de la plage est plus beau avec le paysage du mont Ileboleng derrière. Vous pouvez faire de nombreuses activités là-bas, comme parcourir la plage, jouer du sable ou de l'eau jusqu'à la recherche d'un endroit intéressant pour prendre des photos. Pour jouer l'eau de mer, il faut faire attention car parfois sa vague est assez grosse. Pour accéder à la plage de Wato Tena, vous pouvez utiliser un bateau à moteur au départ de la Rantuka et accoster au port de Terong ou de Waiwerang sur l'île Adonara. La plage se trouve à environ 6 km du port de Waiwerang, à environ 30 minutes de Waiwerang et à environ 3 heures du port de la Rantuka. Le plus important qui devrait prêter attention est la propreté. Il est interdit aux touristes de jeter les ordures arbitrairement, de ne pas fumer et d'apporter des boissons à la plage. C'est certainement rendre la plage très propre et ne pas être polluée. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Jantungku hingga nanti. cinta kita yang kan ku ingat.
Cinta kita yang kan ku ingat.
Cinta kita yang kan ku ingat. Selalu.
Cerita setelah Samsung de Vidi Fit Andin ang titule hingga nanti. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Pour la suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Moussim, ou en langue française, saison. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Moussim, ou en langue française, saison. Tony est dans la région de Tampa Prambanan avec un guide touristique. Il parle de la saison.
Aduh, cuacanya panas sekali.
Iya, sekarang sedang musim kemarau.
Oh, di Indonesia ada dua musim benar?
Iya, musim kemarau dan musim hujan.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir musim. Musim. En français, saison. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Cuacanya panas sekali. Cuacanya panas sekali. En français, il fait très chaud. Musim. Musim. En français, saison. Di Indonesia ada dua musim. Di Indonesia ada dua musim. En français, en Indonésie, il y a deux saisons. Sekarang sedang musim kemarau. Sekarang sedang musim kemarau. En français, maintenant c'est la saison sèche. Musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. En français, la saison sèche et la saison des pluies. Di Amerika ada empat musim. Di Amerika ada empat musim. En français, en Amérique, il y a quatre saisons. Musim panas. Musim panas. En français, été. Musim dingin. Musim dingin. En français, hiver. Musim semi. Musim semi. En français, printemps. Musim gugur. Musim gugur. En français, automne. En Indonésie, il y a deux saisons, à savoir la saison sèche et la saison des pluies. En langue indonésienne, vous pouvez dire di Indonesia ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Je répète, di Indonesia ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. En français, en Indonésie, il y a deux saisons, à savoir la saison sèche et la saison des pluies. L'autre exemple, di Amerika ada empat musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Di Amerika ada empat musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. En français, en Amérique, il y a quatre saisons, à savoir l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, Pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Aduh, cuacanya panas sekali.
Iya, sekarang sedang musim kemarau.
Oh, di Indonesia ada dua musim benar?
Iya, musim kemarau dan musim hujan.
Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir, que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Of Indonesia.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, biar kita jalan ke depan. Aku ingin lama jadi petamu, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan. Oh, tuntutlah sesuatu, biar kita jalan.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Jangan cintai aku apa adanya » chantée par Toulouse. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, je vais vous présenter des informations sur la chanson de Kroncong intitulée « Pertemuan » ou en français « La Réunion ». Le cœur qui se perd depuis la première rencontre est le thème abordé dans cette chanson. Un cœur enchaîné est difficile à oublier. Et maintenant, le cœur espère toujours se revoir. Ika Sugiono est l'un des chanteurs talentueux de l'Indonésie qui a choisi la musique de Kroncong. Sa voix distinctive et douce est parfaite pour chanter des chansons de Kroncong. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson de Kroncong dont le titre est Pertemuan, qui signifie la réunion, qui a été chantée par Ika Sugiono. Bonne écoute!
Sejak berjumpa
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!